A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du formidable podcast Le Rendez-vous Jeu où on parle de l'actu du jeu vidéo, on analyse, on résume, on décortique, on parle de nos expériences et des jeux auxquels on a joué ces derniers jours et ces dernières semaines. Je suis Patrick Béja et j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui, bien sûr, comme tous les mois, Escarina alias Maïté. Comment ça va, Escar ?
Eh bien, écoute, c'est la grande forme, Patrick. J'inaugure avec toi un tout nouveau micro aujourd'hui de marque Rode. Alors, je ne fais pas de la pub parce qu'en fait, je n'ai pas payé ce micro. On l'a eu grâce au Patriote d'un autre podcast jeu vidéo dont on taira le nom pour l'instant.
Mais donc, est-ce que le nom commence par Super et se termine par Gamerside ?
Voilà, on en parlera forcément à un moment ou à un autre. Mais voilà, donc nous aussi, on a des gentils patriotes qui nous offrent du matos. Alors l'ironie, c'est que du coup, j'inaugure ce matériel avec toi et pas avec eux. ce qui va les faire grincer
les
des
dents.
Ils aiment bien
grincer.
Ils aiment bien. C'est notre petit running gag. Donc voilà, du coup, si le son est mieux, eh ben, j'espère que tant mieux et merci. S'il y a des petits cafouillages, je m'en excuse d'avance.
Non, il a l'air très très bien. Et puis en plus, Rode, c'est une marque que j'aime bien et qui fait du bon matos. Donc C'est lequel que vous avez pris, le NT Mini ou NT ? Tu sais pas.
Tu m'en demandes beaucoup là, je te retrouverai la référence tout à l'heure.
Ça doit être un Rode NT USB, je pense, quelque chose comme ça, j'imagine.
C'est possible.
C'est en USB ?
Tout à fait.
Ouais, donc c'est un NT USB ou un NT USB Mini, l'un des deux. J'ai un Mini là qui traîne juste par là-bas, il est très bien. Bon, on va arrêter de parler de technique de micro de podcasteur et on va plutôt se retourner vers notre ami Winston. Comment ça va, Winston, alias Baptiste ?
Salut Patrick, bah écoute, ça va très très bien. Moi aussi, je teste du nouveau matos, mais c'est un nouveau PC, donc c'est un peu l'enfer, mais tout va bien.
Écoute, je compatis, j'ai depuis ce début de semaine lancé l'enregistrement et tout le travail sur le nouveau PC qui est très très beau et qu'il est tellement beau que j'ai toujours eu mes PC sous mon bureau et là je suis en train de réfléchir à le mettre sur le bureau tellement il est beau avec des belles lumières et un beau boîtier Define que d'ailleurs on voit la boîte. Juste ici, Fractal Design. Oui, je vais peut-être le mettre sur le bureau. T'as réussi à avoir...
Je suis obligé de le mettre sur le bureau.
Je comprends. T'as réussi à avoir une belle carte graphique ?
Ouais, j'ai galéré. Hein. Heureusement, je suis passé par un site qui monte les PC. Là. C'est une marque avec un logo bleu, voilà, en 4 lettres. Et il m'avait mis une carte graphique de côté, donc tout allait bien.
C'est une quoi ?
Je sais plus, c'est une GeForce, ça c'est sûr, mais alors je saurais plus te dire le modèle.
Tu sais pas si c'est une 3070, une 3060, un truc comme ça ?
Non, c'est pas un truc monstrueux parce que je suis plus joueur console que PC, donc j'ai pris un truc pour jouer à des trucs pas trop récents.
C'est vrai que c'est
pas une monstre.
En phase avec le podcast qui rate le train de l'hype, avec Backlog, où vous parlez des jeux qui ont 3-4 ans. Donc,
c'est ça, tout à fait.
C'est vrai que t'as pas besoin. C'est pratique hein, d'être un patient gamer. Du coup, tu payes les jeux pas cher, tu les payes parfois pas du tout parce qu'ils sont gratuits de tous les côtés.
Ah, tout à fait. Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais, c'est un plaisir. Moi, je fouille les bacs à soldes, les bacs à occasion. Et puis avec Epic Games ou les trucs comme ça, maintenant tout tombe cru du ciel, c'est bien.
C'est quand même. On va en parler, tiens, quand on va parler du Steam Game Festival et de l'abondance des jeux qui tombent de partout. Je vais quand même dire bonjour à la chatroom. Et non, Thomas, je ne trouve pas que mon PC est plus beau que mon fils. Ça n'est pas du tout vrai. Ils sont à peu près aussi beaux l'un que l'autre. Voilà, c'est tu répands des fake news, Thomas.
Il y en a un qui est plus silencieux que l'autre, c'est tout.
Je te confirme, ça c'est certain, oui. J'ai d'ailleurs spécialement choisi tous les composants pour qu'ils soient plus silencieux. Et malheureusement, on ne peut pas choisir les composants de ses enfants. C'est dommage, hein. Franchement, ça faciliterait les choses. Mais avant de se lancer dans les news, dans les jeux, dans les news sur Final Fantasy XIV Endwalker, on va en parler un tout petit peu, on va parler aussi de Black Myth Wukong, de l'arrivée de nombreux gros cadors du jeu vidéo en Chine, et puis de plein de petites news, on va parler de Blizzard aussi et de plein de choses. Avant ça, je voudrais quand même remercier les auditeurs qui soutiennent le rendez-vous jeu sur Patreon. Aujourd'hui, spécifiquement, je remercie du fond du cœur, avec mes mains sur le cœur, je remercie Fabrice Moisan, Patrice Rudman, David Zett, Touki 42, Thibaut Deloche, Françoise David ou David Françoise, Paul Thorn, merci à vous tous et également merci aux nouveaux producteurs de l'émission. Vous savez qu'il y a traditionnellement deux producteurs du rendez-vous jeu dont les noms sont cités à chaque mois, une fois de temps en temps, chaque épisode. Vous vous dites, c'est peut-être Lancelot Davizard ou alors Chulrac. Et non, c'est Johan Journet, et oui, on prononce bien Journet, qui a débarqué dans l'équipe des producteurs et que je remercie du fond du cœur de s'être joint à cette équipe qui contribue financièrement de manière significative à la production de l'émission. Donc un grand merci à Johan qui a rejoint l'équipe et merci bien sûr à tous ceux qui choisissent de dépenser leurs sous durement gagnés dans le financement de l'émission. Je sais que c'est pas anodin et j'apprécie vraiment très sincèrement votre sacrifice pour que je puisse faire ce travail vraiment difficile qui consiste à jouer à des jeux vidéo. Donc merci à vous tous. On va donc parler un petit peu du Steam Game Festival et on va tout parler de certains jeux. Enfin, moi, j'en ai testé quelques-uns. Je sais que vous êtes sur des trucs qui sont sortis un petit peu plus tôt. Mais avant ça, je voudrais rebondir sur ce dont on parlait avec toi, Baptiste, à l'instant. La quantité de jeux et le fait que les jeux soient tellement abondants qu'aujourd'hui, on les file gratuitement et à des prix défiant toute concurrence, très peu de temps après leur sortie. C'est dingue parce que j'ai l'impression qu'on n'en parle presque jamais de ce côté... je pense que c'est positif de l'évolution de l'industrie. On a, vous le savez, enfin tout le monde le sait, on a tendance à se focaliser sur le négatif plus que sur le positif. Mais ça, c'est un truc qui s'est installé au cours des dernières années avec la dématérialisation des jeux et le fait que, le fait qu'on puisse pas revendre facilement seconde main ou moins aujourd'hui, parce que le numérique, ça se revend pas en seconde main, a conduit à des soldes constante et des combats de concurrence saine dans les différents domaines du jeu vidéo qui font qu'il y a des gens qui donnent des jeux gratuits tout le temps, enfin en tout cas l'Epic Game Store. C'est un truc qui s'est installé sans qu'on s'en rende compte et j'ai l'impression que personne n'en parle jamais, mais c'est quand même incroyable la facilité avec laquelle on peut se procurer des jeux aujourd'hui. Alors pas le tout dernier au moment où il sort, mais si on m'avait dit il y a... j'allais dire 20 ou 30 ans, mais même il y a 10 ans que le marché du jeu vidéo serait ça aujourd'hui, des sorties par milliers chaque année et des jeux gratuits ou presque gratuits par dizaines, j'aurais eu du mal à le croire. Toi, tu es un petit peu l'archétype du patient gamer, si je ne m'abuse.
Carrément. Ouais.
Tu n'aurais pas pu faire ça il y a 10 ou 15 ans ou 20 ans.
Non, j'aurais pas pu, à moins d'acheter beaucoup de céréales et avoir les jeux dans les paquets de céréales, mais tu vois, mais non, il y a même 10 ans, c'était impossible ce genre de truc. Fallait. Après, il y avait ce qui était bien avec le passion gaming, c'est que ça faisait aussi un filtre, un tri des jeux bien ou moins bien qu'on trouvait plus souvent dans les bacs ou pas. Mais là, maintenant, il y a tout qui tombe. Je pouvais pas imaginer ça il y a 10 ans, effectivement. Entre le Game Pass et Epic Store, c'est la foire non-stop, quoi.
Complètement, ouais. Et c'est vrai que tu fais bien de souligner cet aspect de tri, parce que c'est vrai que quand on est au milieu de l'effervescence, c'est compliqué de savoir à quoi on va jouer. Si tu attends ne serait-ce que 6 mois ou 1 an, tu sais lesquels il faut récupérer, quoi.
Moi, j'ai des potes qui jouent quasiment exclusivement à des jeux obtenus gratuitement à droite à gauche et qui payent quasiment rien pour. À moins un gros coup de cœur, une sortie qui.
Mais ça sinon, peut arriver, ouais. Mais si... oui, pardon, je disais
mais
juste
sinon,
ça
voilà,
peut arriver,
mais sinon, voilà, ouais. ils peuvent se contenter de. Enfin, toute l'année, ils ont leur petite backlog qui se remplit gentiment de jeux gratuitement glanés à droite à gauche, c'est magnifique. Ouais.
Je voudrais répondre à la chatroom. Il y a deux personnes, il y a Fonz et Siro, qui disent j'en profite, mais je trouve pas ça sain. J'aurais pas dit concurrence saine perso. Franchement, je sais qu'on a tendance à juger de tout ce qui a trait à la concurrence et au capitalisme et aux jeux vidéo de manière négative, mais je vous mets au défi de m'expliquer ce qui est pas sain dans cette pratique. Je dirais que là, on est dans une... Alors, il y a beaucoup de problèmes dans l'industrie du jeu vidéo. D'ailleurs, on en parlera peut-être un petit peu plus tard dans l'émission. Dieu sait qu'il y a beaucoup de problèmes et Dieu sait qu'on en parle dans l'émission. On ne se cache jamais on se voile jamais le regard sur ces choses. Mais l'arrivée de l'Epic Game Store, c'est une société qui a fait énormément d'argent avec notamment... Fortnite, et qui a voulu amener de la concurrence sur PC là où il n'y en avait pas, et c'est ça qui était malsain, c'était l'omniprésence et la domination de Steam qui était malsaine pour moi, et avec l'arrivée de l'Epic Game Store, ils donnent des jeux gratuitement pour se faire de la place, mais les jeux, ils ne sont pas gratuits, ils payent les développeurs pour les rendre gratuits sur le store, et on ne connaît pas la nature des deals exacts, mais je peux vous garantir qu'un développeur ne va pas mettre son jeu gratuitement sans avoir une compensation financière, et on a parlé à de nombreuses reprises des modèles différents qu'il y a pour le PS Plus, le Game Pass et tous ces moyens d'obtenir des jeux qui sont très bon marché ou bien meilleur marché qu'avant, et pareil, le fait qu'il y ait des soldes tout le temps, c'est parce que les jeux numériques, ils peuvent être vendus pour la première fois pendant des années et des années, alors qu'un jeu physique, tu peux le revendre d'occasion. Et oui, c'est un avantage pour le joueur, mais on se rend bien compte que quand c'est plus possible parce que les jeux sont numériques, on a d'autres avantages qui arrivent, comme le fait d'avoir ces soldes qui permettent d'avoir les jeux très bon marché tout le temps. Je sais qu'il y a des excès à la concurrence et à ce modèle capitaliste, et on ne va pas faire de politique, ce n'est pas forcément nécessaire, mais il faut aussi reconnaître que dans cette configuration, c'est la version idéale de ce que ça peut donner, parce qu'il y a une concurrence, oui, je le répète, saine, qui s'établit entre ces différents acteurs qui sont obligés de se battre en attirant le client, en lui proposant des deals, les meilleurs deals possibles. Et ensuite, encore une fois, s'il y a des problèmes dans le développement des jeux vidéo et une culture toxique et tous ces problèmes, on en parle et c'est autre chose. Mais au niveau des avantages de prix pour les joueurs, j'aurais du mal à trouver vraiment les aspects négatifs et non sains de tout ça. Parce que, on le voit bien, il y a des gens de tout type de développeurs qui réussissent leur entreprise financière, qui sont là pour vivre de leur travail, que ce soit des indés qui ont des succès, des gros AAA qui marchent très bien, des intermédiaires qui réussissent à vendre leurs jeux, des gens qui n'auraient jamais pu se faire connaître et faire le jeu qu'ils veulent et réussir à toucher leur public, peuvent le faire aujourd'hui. Enfin, vraiment, il faut être particulièrement, aigri pour trouver que là, l'écosystème du jeu vidéo est malsain par cet aspect, quoi. Je m'emporte ou vous êtes d'accord avec moi ? Non, personne ne veut le prendre.
J'allais laisser Winston s'exprimer.
Ah ouais, vas-y, bien sûr. Non, j'en sais rien. Toxique. Moi, je comprends ce qui a été dit dans le chat à propos de la toxicité, mais on va dire que non, c'est plutôt sain. Après... oui, c'est vrai qu'ils se font une guerre entre eux, c'est pas plus mal. Après, Epic apporte un travail de curation qui n'avait pas Steam. Steam, c'était on te balance une brouette de jeux à la figure, alors que là, Epic, on va dire qu'ils choisissent un peu à droite à gauche des jeux à mettre en avant et gratuitement. C'est déjà un plus. Si ça pouvait aussi assainir un peu Steam, ce serait pas mal, effectivement.
Ouais. Après, moi, juste ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, le temps que tu passes à jouer à des jeux gratuits, c'est du temps que tu ne passes pas à jouer à des jeux pour lesquels tu aurais peut-être payé. Donc, dans ce sens-là, est-ce que la question, c'est effectivement, est-ce que les développeurs s'y retrouvent plus dans un jeu que tu vas payer ou dans un jeu que tu as gratuitement, mais comme tu disais, Patrick, pour lequel ils ont forcément eu leur billet derrière aussi. Ça, sans avoir les chiffres et toutes les arcades de ce qui se passe derrière le décor, c'est compliqué d'y répondre. Hein.
Bah, ouais. C'est vrai qu'on ne sait pas précisément. Par contre, tous les échos qu'on a eus, alors c'est une question qui se pose légitimement, je suis d'accord, mais tous les échos qu'on a eus jusqu'à maintenant, c'est que les développeurs s'y retrouvent. Que ce soit pour le Game Pass ou l'Epic Game Store, je pense que ça fait suffisamment longtemps que ça dure pour que s'il y avait eu des entourloupes par derrière, on en aurait entendu parler. Alors, rien n'est impossible, hein, peut-être que ça arrivera, mais c'est l'impression qu'on en a et je pense qu'elle n'est pas usurpée, cette impression. Il y a Fonds qui dit également les droits des consommateurs sont au second plan. Oui et non, hein, je ne suis même pas sûr. C'est un autre débat. Je pense vraiment que c'est un autre débat. Mais je ne suis même pas sûr. Aujourd'hui, grâce à cette concurrence, justement, sur Steam, par exemple, tu peux te faire rembourser ton jeu immédiatement sans te poser de questions si tu as joué moins de 2 heures. Va à Micromania et dis-leur « Ah ouais, finalement, il ne me plaît pas, j'y ai joué que 2 heures, vous pouvez me rembourser intégralement ?» Va à Micromania, va à la FNAC essayer de demander ça. Je pense pas que tu auras la réponse qui soit plus favorable aux droits des consommateurs, sincèrement. Hein. Donc, bon, après, effectivement, c'est un autre débat, mais on va clôturer cette petite réflexion, à moins que vous ayez des choses à ajouter. Ça serait un débat hyper intéressant à avoir sur le plus long terme, et puis peut-être qu'il faudrait qu'il y ait des gens, ouais, qui savent vraiment de quoi ils parlent, plutôt que moi qui fais des conjectures. Non, Baptiste, toi, tu t'y connais bien.
Non, j'ai un ami qui s'y connaît bien et qui me parle régulièrement de l'industrie sur ça, mais moi je m'y connais pas spécialement.
Ouais. Oui, bon.
Ça m'intéresse vachement et mon collègue de backlog aussi, mais c'est vrai qu'on n'est pas des spécialistes hardcore.
Ouais. Après, ce qui est marrant, c'est que c'est l'éternel débat du dématérialisé versus le physique, et ça fait plus de 10 ans que ça dure et on n'a toujours pas la réponse.
C'est sûr, et c'est sûr qu'il y a aussi des désavantages au dématérialisé et au modèle actuel, je dis pas le contraire, mais bon, bref. Ouais. Moi, j'ai l'impression vraiment qu'on se rend compte qu'il y a aussi des avantages à tout ça, et comme on le dit depuis des années maintenant, j'ai du mal à trouver une époque du jeu vidéo où les choses aient été mieux pour l'ensemble de l'industrie, même si évidemment tout n'est pas parfait.
C'était mieux avant.
Et c'était, mais voilà, c'est ça, c'était mieux avant. C'était, tu sais, est-ce que je vais réussir à ne pas dire factfulness aujourd'hui? Oui, je vais être fort. On va parler un petit peu du Steam Game Festival, qui est un petit peu une illustration de tout ça. J'ai failli le rater. Le Steam Game Festival, c'était une fête de Steam où ils mettaient il y avait des dizaines de démos disponibles pour gratuitement, là encore, et vraiment plein de démos, de plein de jeux, beaucoup d'indés, enfin essentiellement des indés, et de plein de jeux intéressants, des jeux qui n'étaient pas encore sortis, des jeux qui sont déjà sortis. Il y a, si vous voulez vous y retrouver un petit peu, Gamekult a fait une liste des 20 jeux préférés de la rédaction parmi le Game Festival. Alors évidemment, il est trop tard pour essayer les démos maintenant, mais on me dit dans la chatroom, c'était 500 démos, enfin vraiment, c'était des heures et des heures et des jours de jeu, si vous vouliez jouer à tout. Donc, je mettrai l'article de Gamekult dans la newsletter. Si vous voulez vous abonner, c'est sur dotpatrick.com. Finissez par vous abonner, parce qu'à chaque fois, vous dites « Ah merde, j'ai raté celle d'avant. » Elle sort le vendredi. Il y a tous les liens tech et gaming que je vois et qui sont intéressants dans ma veille. Mais vous pouvez aussi aller sur Gamekult, simplement chercher l'article sur les coups de cœur du Steam Game Festival. Il y en a une vingtaine. Il y en a tous ne seront pas pour vous, mais il y en avait des intéressants. Et moi, j'en ai testé quelques-uns, une petite poignée, d'ailleurs, qui faisait partie du Steam Game Festival et d'autres non. Je voudrais vous parler de quelques-uns d'entre eux. Forgone, le premier d'entre eux. Tiens, je vais essayer de trouver le trailer. Forgone, c'est un petit peu C'est un petit peu le digne héritier de Dead Cells. Et c'est Dead Cells, mais en version non roguelite. C'est vraiment un jeu qui est intéressant. C'est plus une sorte de Metroidvania. Alors, tous ces jeux, je n'y ai pas joué des heures. Hein. Je les ai testés, on va dire, sur la durée de la démo, ou une durée équivalente à une démo pour tous les jeux dont je vais vous parler. Mais il est super sympa, il est super beau, super bien animé. Ça rappelle vraiment dans le style Dead Cells, mais on a une mécanique de RPG qui est beaucoup plus classique, avec des armes qu'on peut garder, upgrader, changer, et qui a ce style qu'on pouvait apprécier dans Dead Cells. C'est pas aussi carré au niveau du gameplay, au niveau du game feel, je dirais. C'est un petit peu moins millimétré, mais c'est vraiment sympa de ce que j'en ai testé. Et je crois que je peux, sans... Il est sorti même il y a un moment, hein, il y a plusieurs mois, peut-être même un an.
C'est il y a exactement... une démo dispo en plus.
Ouais, exactement. Donc, allez tester au moins la démo. J'imagine qu'il est sur Switch. Je vais vérifier tout de suite, mais j'imagine qu'il est sur, sur Switch. Le site n'a pas l'air d'être accepté par Chrome. C'est pas grave, mais c'est exactement le genre de genre qu'on apprécie sur Switch. Donc, Forgone, un bon petit jeu sympathique. Je vais également vous parler de Narita Boy. Et ça, par contre, c'est l'inverse. Narita Boy, c'est un jeu qui embrasse complètement son... qui est aussi sur PC et sur Switch d'ailleurs, qui est complètement amoureux de son esthétique années 80. C'est à mi-chemin entre Sword and Sorcery, vous vous souvenez, ce jeu des Super Brothers qui était sorti sur iOS.
Ouais. Ouais, ouais. C'est génial.
Cette esthétique se retrouve un petit peu dans Narita Boy. Mais le truc, c'est que pour moi, ça va trop loin. C'est un platformer qui va tellement dans l'esthétique des années 80 qu'il va carrément jusqu'à recréer l'écran...
C'est... Cathodique,
voilà. CTR, cathode CRT, c'est ça que je cherchais, ouais, cathode ray tube. L'écran CRT... dans son affichage, c'est-à-dire qu'il reproduit la courbure de l'écran, etc. C'est hyper années 80, il y a du synthwave, des couleurs néon, etc. Et c'est un peu un jeu indé qui est tellement indé, qui va tellement loin dans le truc, je pense que certains joueurs vont l'adorer, mais vraiment l'adorer. Mais moi, j'ai été... fatigué rien qu'à l'idée de devoir continuer dans cet environnement et dans cette complaisance. Genre, t'as presque l'impression qu'ils font les trucs en indé juste pour faire chier les gens qui... les développeurs AAA, tu vois. C'est genre, nous, on peut le faire comme ça et on est... Je sais pas, c'est difficile à décrire. Il y a aussi une démo, je crois, peut-être. Mais ça va très, très loin dans l'intention d'artiste. Et c'est vraiment admirable. Le travail esthétiquement, c'est magnifique. C'est très travaillé. Mais c'est trop pour moi, quoi. Il passe des heures. Il te faut genre une demi-heure de lecture de la motherboard a décidé qu'il fallait faire ceci. Tu es rentré dans l'ordinateur et tu as maintenant accès à la Technosword. Et avant qu'il y ait un petit peu de gameplay, il te faut une demi-heure de te balader dans des environnements Tron et 8-bitesque, rétro-pixelesque. Et en même temps, les animations sont super belles. C'est pas pour moi, mais c'est vraiment un jeu très, très travaillé et qui plaira à beaucoup de gens, je crois.
Oui.
Donc ça, c'est Narita Boy. Et les deux autres jeux dont je voulais parler, c'est deux jeux qui font un petit peu le yin et le yang du Hades et Dead Cells-like. Il y en a un qui est excellent et il y en a un qui réussit pas son coup. Le premier, c'est Curse of the Dead Gods et le second, c'est Skull. Et là encore, je les ai testés très, très succinctement. Attendez, je vais retourner sur YouTube pour mettre Skull Trailer, pour que vous puissiez voir ça si vous regardez en direct sur Twitch. Mais les deux ont l'air super sympas, et il y en a un vraiment qui réussit son coup et l'autre qui réussit pas. Curse of the Dead Gods, il sort dans 2 semaines, je crois, officiellement. Il est en accès anticipé depuis un an, à peu près. C'est édité par Focus Home Interactive, et c'est à peu près... le mélange improbable, ou même probable, entre Hades et Dead Cells. C'est-à-dire qu'il y a la vue isométrique de Hades, le look même un tout petit peu de Hades, le gameplay, on pourrait l'assimiler à Hades, mais il y a tout ce qui est... c'est un roguelite, hein, bien sûr, je ne l'ai pas mentionné, mais évidemment que c'est le cas. Et tout ce qu'on pourrait prendre de randomisé et de précision de Dead Cells y est aussi. Il y a des systèmes qui ne sont pas très nombreux, mais qui se coordonnent hyper bien. Les armes, comme dans Dead Cells, sont très différentes, mais toutes super cool et fun. Et il y a une précision qui est peut-être plus importante encore que dans ces deux jeux que je viens d'évoquer. C'est un peu plus punitif, mais c'est assez jouissif quand on commence à maîtriser les systèmes. Il y a une synergie qui se fait entre les parades, les roulades, la manière dont on récupère des points de roulade et de parade et toutes ces choses-là, c'est vraiment un jeu qui est pas au niveau de... J'ai pas joué assez pour savoir si c'est au niveau de Hades ou Dead Cells, je pense pas que ça soit le cas, mais c'est hyper jouissif. Il y a aussi un système de malédiction qui fait qu'on peut continuer dans le jeu, mais à chaque fois qu'on continue à avancer, on a des malus qui vont nous rendre la tâche plus difficile. C'est hyper malin, hyper carré justement, à l'opposé peut-être de celui dont je parlais tout à l'heure, mais vraiment très très cool. J'ai beaucoup aimé et je pense que je vais y jouer encore pas mal. Il est possible que ça soit une gemme presque cachée parce que j'en ai pas beaucoup entendu parler. C'est Curse of the Dead Gods et il sort le 23. Et donc à l'opposé, il y a Skull. Pardon, vas-y.
J'allais dire, au niveau de la DA, ça fait vraiment beaucoup penser à Darkest Dungeon, mais en version 3D.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Ouais.
Et quand tu regardes les vidéos, ouais, t'as l'impression que ça donne, la petite originalité que ça... Enfin, moi, c'est l'impression que ça me donne, c'est qu'il joue beaucoup plus avec l'environnement que des jeux comme Dead Cells et Hades, où c'est avant tout du combat contre des monstres et moins de l'interaction avec l'environnement. Là, tu as beaucoup de pièges, des tourelles qui te balancent du feu, des choses comme tout ça, choses à éviter. Ouais. Ça a l'air sympa.
Ouais, ça fait très Torchlight.
Ouais. Un petit peu, ouais. Et il y a cette ambiance oppressante. C'est une très bonne référence.
Darkest Dungeon.
Darkest Dungeon, merci. C'est une très bonne référence parce qu'il y a cette ambiance assez oppressante aussi, avec les malédictions et l'exploration et la cupidité de l'explorateur qui veut aller toujours plus loin au risque de sa vie. Et c'est des dieux Inca ou Aztèque, je ne connais pas très bien la différence entre les deux, les spécialistes m'excuseront. Mais c'est un petit peu ça, il y a cette ambiance très oppressante. C'est vraiment le Darkest Dungeon, tu ressens la même chose, quoi. Pas autant, mais... et puis, Skull, donc, de Hero Slayer, c'est assez intéressant. C'est aussi un roguelite, mais je trouve qu'il réussit beaucoup moins son coup, du peu que j'en ai essayé. C'est intéressant, le concept, parce qu'on joue un squelette qui fait partie de l'armée du mal et des démons et qui va vouloir combattre les humains. Et c'est assez marrant parce que les squelettes et les démons sont les gentils et les autres, les humains sont les méchants. Et les graphismes sont très cool, c'est encore du pixel art. Mais je crois que c'est un jeu coréen d'ailleurs. Mais je trouve que ça ne fonctionne pas. Le fantasme est clairement séduisant parce que le gameplay a l'air très très cool et peut-être que ça devient plus cool quand on continue à y jouer. Peut-être qu'il faudrait que je lui donne un petit peu plus sa chance, mais quand il y a des dizaines de jeux qui m'attendent, j'ai pas envie d'y passer plus d'une heure pour commencer à ce que ça soit fun, et là c'est pas encore tout à fait fun. Ceci dit, le truc a l'air cool quand on regarde les pouvoirs qu'on peut obtenir plus loin dans le trailer. Donc peut-être que ça vaut le coup et que ça prend juste un petit moment à s'installer, mais là, il ne m'a pas énormément séduit. Ça s'appelle Skull, avec un seul L, Skull de Hero Slayer. Et je voudrais répondre à un commentaire de la chatroom qui dit « c'est la foire au roguelite ». Et c'est vraiment, c'est complètement le cas. Et j'y ai pensé en préparant l'émission, bien sûr, mais je me suis dit... En fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a énormément de roguelite, mais c'est un style de jeu qui est tellement versatile et qui est tellement pratique pour les indépendants. Hein. Ça permet de faire des jeux qui durent longtemps sans dépenser beaucoup d'argent de développement, enfin en dépensant moins, on va dire, et donc en se concentrant sur les mécaniques de gameplay et sur le peaufinage de ce qui est dans le jeu, plutôt que de devoir ajouter des dizaines de niveaux qui seront moyens. Mais le truc, c'est que dire c'est un roguelike, donc ça fait chier. Bon, c'est des mécaniques spéciales, je comprends qu'on finisse par en avoir marre. Mais c'est un peu comme dire, oh, c'est un jeu à la première personne. Il y en a marre des jeux à la première personne. Pour moi, j'ai un petit peu la même approche. Je comprends que les gens n'aiment plus, enfin, on est marre des roguelites, mais c'est quand même un truc qui est... On peut en avoir marre des FPS aussi, hein, bien sûr. Mais c'est juste un genre, quoi. Oui, Winston, pardon.
Parce que c'est quand même le même syndrome que sur console où en ce moment on a genre que des mondes ouverts. Là sur PC, c'est que du rogue. Au bout d'un moment, je comprends qu'on en a un peu ras-le-bol, quoi. De ce fait, ouais, c'est vrai que là sur les quêtes que tu as montré, moi il y a Narita Boy qui me plaît, mais alors après, me relancer dans un roguelike encore une fois, tu vois,
bah, t'as une envie. Tu le vois, même dans la shortlist de Game Cult, ce qui ressort le plus, c'est les jeux en pixel art, les deck builders et les roguelites.
Ouais, bah, génial.
Bien sûr.
Ouais.
Et ce qui est marrant, c'est que c'est que des jeux indés. Et c'est des jeux indés parce que bah, les indés, ils n'ont pas les moyens des gros développeurs de AAA. Donc le roguelite, bah, comme je le disais, c'est un moyen hyper simple de faire un jeu qui a une durée de vie.
Oui, c'est sûr.
Et donc, généralement, les gens qui disent « Oh, il y en a marre des mondes ouverts » ou « Il y en a marre des FPS », bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui disent qu'on en a marre des FPS, mais c'est des gens qui vont dire « Ah, abat les triple A, tu vois, on veut quelque chose d'original. » Et bon, c'est sûr qu'il y a tellement de roguelike, mais c'est pour moi très symptomatique de cet écosystème qu'on a aujourd'hui où les indés et les développeurs de AAA font un petit peu jeu égal face aux joueurs. Et donc, il y a ce mélange qui se fait. Et les indés sont obligés de développer des trucs, finissent par choisir de développer des trucs qui doivent occuper les joueurs pendant très, très longtemps. Et le roguelite est inévitable dans ce cas-là, quoi. Bon. En tout cas, si vous devez en retenir qu'un, à mon avis, c'est Curse of the Dead Gods, qui est très très bien. Enfin, qui a l'air très très bien. Est-ce que il y a... Bon, moi, j'ai pas joué à Little Nightmares 2, mais il fait beaucoup de bruit en ce moment. Et je crois que c'est pas du tout mon style. Hein. Le platformer d'horreur, c'est... La partie horreur, c'est trop pour moi. Est-ce que vous avez joué à des trucs ces dernières semaines, des trucs intéressants? Peut-être, Winston, tu me disais que tu jouais un jeu sur Switch?
Ouais. Pour une fois, entre deux backlogs où je joue à des jeux vieux, je rallume ma Switch. Ouais. Et donc là, en ce moment, je joue à Flippon. C'est un match 3 qui a été fait par Aurélien Regard, donc celui qui a fait L.I.A. Et beaucoup de jeux, dont Away, qui a moins marché dernièrement. Et par Damien Mayence, c'est le mec qui a fait Stair Eden. Donc, c'est une direction artistique vraiment chiadée et c'est un match 3 très sympa où tu peux te déplacer que horizontalement. Donc, ça met un peu plus de challenge dans le jeu et c'est très coloré. C'est très stressant, ça va très, très vite. Et il y a une petite histoire très sympathique à base d'une nana qui ramasse des minerais dans l'espace. C'est très rigolo, voilà. Après avoir fait... une émission sur Dead Space où c'était des mineurs dans l'espace, ben je fais une autre émission des mineurs dans l'espace.
C'est pas différent. La même ambiance.
C'est pas la même ambiance, ouais, voilà. Mais je vous le conseille, ça coûte rien et c'est très très sympa, voilà.
Est-ce que c'est... Il y a quelque chose qui le différencie d'un autre match 3 ou c'est juste un bon match 3 comme on en connaît? Tu vois, quand je parle de 12 roguelites d'affilée, ouais. Je me dis...
Je savais que tu allais me tomber dessus sur ça parce que c'est vraiment... c'est ça, c'est le roguelite ou le match 3. Voilà, moi j'attends le roguelite match 3 bientôt. Mais c'est...
Est-ce que c'est pas un petit peu des roguelites tous les match 3 de toute façon? Tu recommences systématiquement.
Tout à fait, c'est ça. Ouais, mais c'est aussi... un style de jeu très, très répandu. Non, il est très dynamique, très sympa. Il y a du niveau, quoi. Enfin, il y a du challenge. Ouais.
Mais est-ce que c'est un jeu qui a des qualités qui le différencient des autres ou c'est juste, comme on disait...
Alors, je fais très peu de match 3, parce que bon, un match 3 reste un match 3. Là, c'est la personne qui me l'a recommandé. Il m'a dit, bah, de toute façon, ça va te plaire, parce que c'est par le créateur de Stair Eden et par Aurélien Regard. J'ai dit, bah, laisse tomber, je vais y jouer. Voilà, c'est comme
d'accord.
Ça.
Bon, et puis, soyons honnêtes, il faut avouer que des match 3, il n'y en a pas autant que des roguelites en ce moment.
Des roguelites.
Malgré toute ma défense du concept et ma compréhension des raisons pour lesquelles le roguelite est vraiment présent... Oui, j'avoue, il y en a quand même partout, tout le temps. On est d'accord, je comprends que ça puisse fatiguer un petit peu les gens. C'est vrai.
C'est ça.
Et j'ai entendu dire que tu étais, Maïté, sur un jeu, sur un gros jeu de l'année dernière qui est sorti dans un fanfare de joie et de bonheur.
C'est ça, moi aussi je fais du rétro gaming. Donc ben, en ce moment je suis sur Cyberpunk 2077, je ne me suis pas laissé abattre par la vague de hate plus ou moins méritée selon les sujets concernant ce jeu, et donc j'y joue sur mon PC, sur ma carte graphique qui commence à dater puisqu'on ne reviendra pas sur mon épisode de Shadow, et j'en suis à 45 heures de jeu et je m'amuse beaucoup. Donc voilà, je trouve que l'écriture est plutôt cool. Je ressens pas du tout l'aspect un peu cringe dont j'avais entendu parler avec des sextoys partout et des blagues de cul partout. Je le ressens pas du tout.
Sur les sextoys spécifiquement, ils les ont virés, hein. Ils ont mis un patch pour enlever. Alors ensuite, les blagues, je suis sûr que c'est les mêmes, mais les sextoys spécifiquement, ils en ont effectivement viré.
Ouais, alors il y en a un peu à droite à gauche, mais bon.
Ouais, il y en a pas autant qu'il y en avait au début. Par curiosité, je suis sûr que des auditeurs se poseront la question. Tu joues sur quelle carte graphique tu dis qu'elle
est paraissante ? Une 960. Et ça passe plutôt bien.
Waouh ! Ah oui, d'accord, 960, c'est encore plus petit 960. Que ma 970. OK.
Alors forcément, visuellement en jeu, c'est pas ouf, mais en l'occurrence, moi ça me dérange pas. Je pense qu'en fait, il faudrait surtout pas que j'y joue sur une 3080 et que je retourne sur ma 960.
Ouais, c'est ça.
Donc si tu veux, vu que j'ai connu que le jeu sur la 1080 au temps où j'avais mon accès Shadow, je vois pas une énorme différence. Mais là, je vois les images que tu es en train de passer là sur le on est vraiment très loin de ça. Après on est c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on a pu voir sur PS4 et Xbox One, hein, je vous rassure, ça reste quand même... Non, c'est potable, on va dire que c'est complètement jouable, en tout cas c'est fluide. Au niveau du gameplay, les combats, la façon dont c'est exploité, je trouve pas ça révolutionnaire. Enfin, au final, t'as assez peu de choix, je trouve, sur la façon dont tu peux gérer les combats. Tu peux pas avoir des pouvoirs de netrunner comme j'aurais aimé que ce soit possible. Donc cette partie-là est pas surexploitée, on va dire. Ça aurait pu être un peu plus pas révolutionnaire, mais un peu plus creusé. Par contre, je trouve qu'au niveau de l'écriture, c'est très chouette. Moi, je m'ennuie pas. Je trouve qu'il y a vraiment un contenu, il y a une générosité dans le contenu qui est assez ahurissante. Je fais toutes les quêtes avec beaucoup de plaisir et je trouve qu'elles ont, voilà, elles ont toutes une écriture. Voilà, moi, je m'ennuie pas. Je m'y retrouve sur le côté RPG malgré tout ce que j'ai pu entendre. Alors, c'est sûr que t'as pas des impacts sur l'histoire qui sont complètement tarés, mais t'en as quand même. Donc, c'est peut-être pas le RPG du siècle, mais ça reste, je trouve, un très bon jeu. Si on met de côté toutes ces histoires de bugs et de finitions, je trouve qu'il mérite vraiment pas toute la hate qu'on a pu entendre dessus. En tout cas, moi, je m'amuse dessus sur le jeu. Dans son état actuel, peut-être que dans un an, ce sera plus du tout le même jeu et qu'il sera encore mieux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui conseillent d'attendre avant d'y jouer, et c'est sûrement un bon conseil. Mais en tout cas, moi, sur ma 960, écoute, je suis à 45 heures et je veux continuer à faire toutes les quêtes que je croise. Je m'amuse beaucoup. D'accord. Donc voilà, je passe du bon temps, quoi.
Très bien. Bah écoute, je suis content qu'on puisse faire justice à Cyberpunk parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'apprécie, donc tu es leur voix. Moi, vous vous en doutez, avec ma nouvelle machine et ma 3070, je l'ai lancée. Et le truc, c'est que je suis pile au tutoriel du hacking. Et comme j'ai très, très peu de temps pour jouer, j'ai généralement, je ne sais pas, 20 minutes, une demi-heure, quelque chose comme ça. À chaque fois que je le lance, je me retrouve dans ce début de tutoriel de hacking qui me saoule, mais à un point, c'est inimaginable. Et je le lance, je me dis, OK, je vais faire le hacking. Oh non, ça me saoule trop, je vire le jeu et je me remets à faire une ou deux parties d'Overwatch. C'est terrible, j'ai honte. Mais bon, c'est pas que Overwatch, j'ai aussi testé Skull et Curse of the Dead Gods et tout ça. Mais rien que l'idée de devoir passer 15 minutes dans ce tutoriel de hacking qui est un petit peu pénible, ça me fatigue. Donc, je l'ai pas encore...
Pourtant, il y a vraiment très peu de tutos dans le jeu. D'ailleurs, je trouve que c'est... Je ne vais pas dire que c'est dommage, mais je trouve qu'il y a des fonctionnalités dans le gameplay qui ne sont pas forcément hyper compréhensibles. Enfin, tu vois, des fois, il y a des choses qui sont assez brouillons. C'est vraiment pas un jeu qui est parfait, hein. Mais tu t'es quand même dans une ambiance, tu vis une expérience. Je ne vais pas revenir sur le level de Night City qui est assez taré, mais voilà, tu sens que c'est un jeu qui a été fait quand même avec, avec les tripes. Alors, bon, pareil, on ne reviendra pas sur les conditions de travail du studio, mais...
Ouais, moi, presque littéralement avec les tripes, ouais. Bon, bah écoute, merci en tout cas pour ce petit topo sur Cyberpunk 2077. Moi, je vais juste finir en disant un mot sur Valheim, dont vous avez sûrement entendu parler. J'imagine que vous en avez entendu parler de Valheim, non ? Non ? Pas du tout ? Personne ?
En voyant les images,
ça me dit rien.
Alors, Valheim, c'est un survival qui est hyper populaire sur Steam en ce moment. Un survival, comme il y en a des dizaines, hein, on connaît dans le genre de jeu populaire en ce moment, bah, y a les survivals, et qui fait beaucoup de bruit sur Steam en ce moment. Et je me suis dit, bah, j'ai jamais accroché au survival, bah, je vais tester, je vais voir ce que ça donne, parce que celui-là, il a l'air d'être très bien. C'est vraiment, comment dire, il est peut-être très bien, hein, mais... Non, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Il y a des aspects qui sont très beaux et des aspects qui sont assez pixelisés. C'est un petit peu étrange, mais au-delà de ça, c'est vraiment Steam, le jeu. C'est genre le jeu qui ne peut exister que sur PC, pour les joueurs PC qui sont vraiment des joueurs PC. Tu vois, ils ont leur badge PC Master Race. C'est pile le truc, de la même manière que tu pourrais te dire, je sais pas, un jeu spécifique console rétro Japon, genre un remake de Monster Boy, tu vois, c'est un jeu pour un type de joueur spécifique. Bah là, c'est un jeu pour un type de joueur vraiment spécifique, il a l'air sympa, j'y ai joué un tout petit peu, mais, et j'ai même apprécié, mais c'est marrant à quel point c'est vraiment pour ce genre de joueur. Mais je vais continuer à y jouer si je peux, parce qu'il a l'air assez cool. Donc, mais ça a l'air d'être le... C'est un, ce que je dirais pour lui, c'est qu'il a l'air quand même un petit peu plus accessible, facile d'accès que les survival que j'ai vus jusqu'à maintenant. Donc, ça s'appelle Valheim et c'est dispo en early access sur Steam. Mais c'est pile survival, hein. Tu récupères des pierres, du bois, tu construis ton établi pour commencer à fabriquer d'autres choses. Te fabriques une masse et puis un marteau et puis tu casses des pierres. Enfin bon, c'est survival à fond, quoi.
C'est Minecraft pour les adultes, en fait, quoi.
Un petit peu, ouais. Un petit peu, c'est un peu ça.
Écoute, je regarde ce trailer et moi, j'ai une vague de nostalgie. Ça me fait penser au jeu Dungeon Siege qui est sorti genre au moins 15 ans, même peut-être plus que ça. C'est pour ça que je disais que c'est moche, mais... c'est moche quand même.
Je sais pas, il y a une depth of field, une comment ça s'appelle, tu sais, l'effet pour transformer les images en comment ça s'appelle, en genre jouet. T'as l'impression que c'est des jouets. Il y a un terme pour cet effet graphique, cet effet photographique. Mets de la profondeur de champ très très forte et tu prends la photo d'à côté. Je sais plus
comment ça s'appelle.
La chatroom va s'en souvenir. Et Fanny nous dit, c'est pile un jeu pour moi. Elle a commencé à jouer, Fanny. Tilt Shift, merci Fanny qui arrive avec le terme. Elle a commencé à jouer à Medieval, je sais plus comment ça s'appelle. Et c'est pile un jeu survival, parce que Trinity nous en a parlé dans un épisode précédent. Et déjà, elle s'est lancée là-dedans, donc je ne sais pas si elle a le temps de se lancer. Medieval Dynasty, voilà, c'est un petit peu le même genre. Bref, ça s'appelle Valheim. Écoutez, je vous propose qu'on fasse une toute petite pause pour que je vous parle de quoi ? Pour que je vous parle de Patreon. Est-ce que vous savez ce que c'est Patreon ? Non, mais c'est pourtant très simple. Patreon, c'est le moyen de soutenir le rendez-vous jeu financièrement. Si vous ne le saviez pas, tous les cool kids sont sur Patreon. Tous les cool kids soutiennent au moins un podcast sur Patreon. Et vous pourriez faire partie des cool kids. Est-ce que vous voulez être cool ? Est-ce que vous voulez être beau ? Est-ce que vous voulez être intelligent ? Est-ce que vous voulez être malin ? Eh bien, vous pouvez soutenir le rendez-vous jeu sur Patreon ou un autre podcast sur Patreon. Soutenez les créateurs que vous aimez. Pourquoi pas ? C'est cette question que je vous pose. Pourquoi ne pas soutenir quelqu'un sur Patreon ? Peut-être que vous n'avez pas assez d'argent, c'est tout à fait compréhensible. Peut-être que vous êtes étudiant ou que vous avez besoin de consacrer cet argent à d'autres choses. Mais si vous vous dites « j'ai un petit peu d'argent qui traîne, j'ai un café que je pourrais ne pas prendre par semaine ou un croissant, tu vois, ça me fera économiser quelques calories et j'aime bien ce podcast », eh bien, vous pourriez vous dire « allez, hop, vas-y, banco, je vais lui envoyer quelques euros par mois et en plus de ça, ça me donnera accès à des bonus super cool, comme par exemple des bonus dans les épisodes avec l'after show qu'on fait toutes les semaines ou presque. Il y a également les time codes qui nous permettent d'aller d'une partie à l'autre de l'émission si on veut sauter des passages qu'on n'aime pas forcément. Il y a aussi l'accès à la newsletter étendue. Je vous parlais de la newsletter tout à l'heure. Eh ben, la newsletter, il y a une version qui est encore plus fournie, qui est envoyée aux Patreons, aux gens qui soutiennent sur Patreon. Il y a aussi l'accès au Discord étendu si vous êtes à un certain niveau. En plus du Discord qui est accessible à tout le monde, hein, vous pouvez tous accéder au Discord. Bref, il n'y a que des avantages quand on est patriote. Et en plus de tous les avantages quasiment tangibles, l'avantage principal, c'est le fait de se dire que vous soutenez une création que vous appréciez. C'est une pratique ancestrale qui a peut-être tendance à se perdre dans notre époque moderne, faite de concurrence malsaine dans le jeu vidéo et de roguelite à foison. Il y a une valeur qui reste, c'est celle du soutien financier des choses qu'on apprécie. Vous pouvez y prendre part sur patreon.com/rdvjeux. Le lien est dans les notes de l'émission. Et quand vous rentrerez chez vous, après une dure journée de labeur et que vous mettrez vos clés dans le bol et que ça fera cling et que vous direz, conditionné par mon discours, vous vous direz « Ah, mais quand ça fait cling dans le bol, il faut que je pense à Patrick !» Eh bien, si vous êtes patriote, vous ne vous direz plus « Il faudrait un jour que je soutienne l'émission !» Eh bien non, vous vous direz « Moi, je soutiens cette émission et j'en suis fier, messieurs, dames !» Vous pourrez aller voir votre femme, vos enfants et leur dire « Tu sais quoi, mon chéri, ma chérie, je soutiens le rendez-vous jeu et ça m'emplit de fierté !» Kling, Patrick, c'est pas que le fait de « Ah, il faudrait que je soutienne », ça peut être aussi « ce moment de ma journée est transformé en une fierté insondable ». Merci à tous ceux qui soutiennent le rendez-vous jeu. J'étais enflammé aujourd'hui. Et c'est sur patreon.com/rdvjeux. Le lien est dans les notes de l'émission.
Moi, j'ai eu l'impression de voir William Wallace devant sa horde d'Écossais. Donc maintenant, j'attends que tout le chat soulève son kilt.
On voit qu'elle vient de Super Gamerside, hein, Eska.
Son kit virtuel, bien entendu.
Bien entendu.
Moi, je veux un t-shirt cling dans le bol, hein, ça va être trop bien. Pour
les... Oui, n'est-ce pas ? Il y a deux t-shirts que je devrais faire. Il y a l'avocat du diable, d'une part, que les habitués connaîtront, surtout dans le rendez-vous tech, et cling dans le bol, je pense que ça pourrait être un autre t-shirt. Je vais commencer à y réfléchir. Et je voudrais aussi remercier Captain Namo, et Gilles FX qui ont laissé des commentaires sur iTunes et tous ceux qui ont laissé des commentaires et des notes sur les applications de podcast que vous utilisez. Un grand, grand merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires comme je l'avais demandé à l'épisode précédent. Si vous ne l'avez pas encore fait, il est bien sûr encore temps, vous pouvez laisser des commentaires et des notes sur cette émission. Et bravo à la chatroom qui lève son kilt avec des pêches. Oui, le fouet de Patrick aussi. Il faudrait, pour les anciens qui s'en souviennent, maintenant je manie un peu moins le fouet, mais ça aussi, ça pourrait faire un t-shirt. Bon, il n'y a pas de raison de ne pas faire... Il y a plein de choses. Il y a la casquette depuis que je fais des vidéos YouTube et que je mets la casquette tout le temps. Il y a le fouet. Enfin, il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Le merch store de Patrick arrive en 2022 parce qu'en 2021, je vous rappelle que j'ai un deuxième enfant qui arrive et donc, je n'ai pas que ça à faire. Bon, de quoi va-t-on parler maintenant ? On va parler d'un truc que je ne peux pas éviter sous peine de me retrouver agressé par une partie de la chatroom, mais ce truc, je ne le connais pas assez bien pour bien en parler. C'est Final Fantasy XIV Endwalker. Endwalker, c'est la nouvelle extension de Final Fantasy, dont il faut avouer que le trailer a l'air quand même très 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 sympa. Alors il y a un trailer en précalculé, bien sûr, et puis il y a un trailer de gameplay que je vous montrerai après. Est-ce que l'un d'entre vous a joué à Final Fantasy ou pas du tout ? Final Fantasy XIV, j'entends, hein, le MMO.
J'ai fait les premiers niveaux, mais je me suis très vite arrêté. Ouais, mais ça avait l'air bien.
Pareil, pareil. Écoute, on en parle à peu près tous les deux épisodes. Hein. Final Fantasy XIV, c'est le MMO qui a improbablement réussi à remonter la pente et qui est adoré de nombreux joueurs aujourd'hui. Il y a une nouvelle extension qui va arriver, je crois que c'est en mai, et une version next-gen qui arrive aussi pour les consoles avec des graphismes améliorés, etc., avec une bêta pour tous ceux qui sont abonnés et qui ont le jeu sur PlayStation 5 qui est en février, je crois. Et c'est surtout la conclusion d'un arc narratif qui a pris très longtemps. Et comme nous l'explique Kassim à chaque fois qu'il est dans l'émission, c'est vraiment l'un des attraits énormes de la série. C'est l'aspect presque série télé avec une histoire qui est hyper bien écrite et qui là va arriver à son terme. En plus de ça, il y a deux nouvelles classes dans l'extension. Un soigneur qui a des faux airs de Gundam avec des sortes de petits bouts d'ailes qui se déplacent partout et qui vont tirer sur les... Enfin, c'est assez impressionnant, et une autre classe mêlée contact DPS qui n'a pas encore été révélée. Mais c'est à chaque fois, et je le dis presque à chaque épisode, ça me donne envie d'y jouer, et puis je me rends compte qu'il y a genre, je ne sais pas, 300 heures pour arriver au niveau où on en est maintenant, et j'abandonne, mais c'est vraiment... Kassim nous dit dans la chatroom, c'est l'équivalent de Endgame pour Avengers. Mais il fallait pas m'en dire plus. Je vais tout de suite aller me réserver 300 heures de jeu pour Final Fantasy XIV. Mais ça donne vraiment envie. Hein. C'est juste que on peut pas jouer à tout. Il y a un podcast que j'aime beaucoup qui a un jingle qui dit « Too many games ». Et vraiment, mais bon sang, qu'est-ce que c'est vrai ? Il y a beaucoup trop de jeux, quoi. Bon.
C'est vraiment un problème de riche. Hein.
Mais c'est un problème d'une industrie qui est tellement florissante qu'on a pour tous les types de joueurs, pour toutes les plateformes, pour tout, tellement de jeux et tellement de jeux disponibles, tais-toi Peggy 16, que on n'a même pas le loisir de jouer à tout ce qui existe, quoi. C'est... Enfin bon.
Bref. Clairement, pour ce genre de jeu, il faut faire des choix. Hein. Tu joues à ça ou tu joues pas à plein d'autres trucs. Quoi.
C'est, ouais.
Mais par contre, l'histoire de FF14...
C'est l'automne 2021, pas en mai, excusez-moi. Ah. Oui, et vas-y, Whitson.
Oui, je te disais juste, ouais, ce jeu en lui-même est un cas d'école. Quoi. C'était au fond du trou il y a plus de 10 ans. Ça a été repris, remonté. Et toute l'équipe maintenant, enfin une partie de l'équipe, bosse sur le 16. Enfin, c'est... la consécration en partant d'une bagnole qui a bossé, quoi. C'est vraiment exceptionnel, cette histoire. Ouais.
Donc, Endwalker arrivera cet automne avec la bêta. C'est en avril, c'est ça, je me suis trompé. C'est la bêta qui arrive en avril sur PS5. Mmh. La bêta PS5, en fait, qui sera disponible aux gens qui sont abonnés. Parlons un petit peu de la Chine, tiens. Il y a eu un nouveau trailer pour Black Myth Wukong. Vous vous souvenez de ce trailer qui avait fait grande impression il y a quelques mois de ça. Et le nouveau trailer ne dément pas, c'est tellement beau. Et c'est un jeu qui... On en parlait, ça semble un petit peu annoncer l'arrivée de la Chine dans l'univers du jeu vidéo occidental avec les nouvelles consoles. Et je crois que... quelle que soit l'origine du jeu, il est tellement beau que ça va en attirer plus d'un. Il faudra voir à quoi ressemble le gameplay. On a quelques images dans ce nouveau trailer. Mais là où ça m'intéresse aussi, comme j'en parlais il y a quelques temps, c'est que ça va nous permettre d'explorer un petit peu la culture chinoise alors qu'on n'y a pas tellement accès. Alors, je suis sûr qu'ils vont contrôlés par le gouvernement pour s'assurer qu'il n'y a pas de choses trop critiques non plus, mais il n'empêche, ça va quand même nous donner accès à cette fenêtre sur la culture chinoise. Et moi, j'ai hâte parce que c'est vrai que le Japon, on l'a découvert pour beaucoup d'entre nous par le manga et le jeu vidéo, et on a découvert quelque chose de vraiment différent qu'on n'avait pas vu ailleurs. Et là, il y a un petit peu de ça aussi. Oui, allez-y.
Tu oublies Dynasty Warriors, Patrick.
Bah, Dynasty Warriors, c'est très japonais. Hein. Alors, c'est souvent l'histoire de la Chine avec
Oui, c'est l'histoire de la Chine.
C'est sûr.
C'était une plaisanterie parce que
Oui, bien sûr, t'as raison.
Est-ce que tu crois que ça tourne sur ma 960
Comment dire, Maïté, je pense qu'il sera peut-être temps à un moment de changer de carte graphique.
De faire le deuil, ouais, mais ça a l'air magnifique. Il est prévu que sur PC
non, il va arriver sur console. Je ne sais pas si on a les plateformes. Ils n'ont pas encore
sur
annoncé
le premier trailer, c'était dessus.
Ouais, enfin, ouais, je suis sûr qu'il arrive sur console, non?
Oui, oui, bien sûr, ouais.
Mais ouais, c'est clairement... Déjà, au premier trailer, c'était bluffant. Moi, ouais, j'achète direct ça, je pense que ouais, je ne me pose pas trop de questions.
Pareil. Moi, j'attends la vidéo de Gia pour expliquer ce qui est dans ce trailer. Elle avait fait deux vidéos sur le premier trailer de Black Myth: Wukong pour expliquer ce qui était montré au niveau de la culture chinoise. Et là, j'attends le round 2 pour tout bien comprendre. Mais ouais, ça, ce sera dans mon backlog et j'y jouerai très rapidement, je pense.
Bah, très rapidement, tu veux dire en 2025?
Ouais, c'est ça, mais c'est très rapidement pour moi, c'est ça.
Ah, si, tout à fait.
Sur le haut de la pile de 3 ans.
Quand tu l'auras eu gratuitement sur l'Epic Game Store en 2024, c'est ça.
C'est ça, ouais. Ouais.
Alors, à propos de la Chine, justement, je voulais parler de deux autres événements. La sortie de la PlayStation 5 qui est prévue en Chine pour le printemps et l'arrivée de Steam officiellement en Chine qui s'est faite il y a quelques jours de ça. Ils ont une quarantaine de jeux sur le Steam Store officiel chinois avec une dizaine qui arrive bientôt. Donc évidemment, on est très loin des milliers de jeux qui existent sur le Steam Store occidental. Mais bon, c'est notable aussi parce que ça veut dire que si le gouvernement veut bloquer Steam International, ils auront sans doute moins... C'est pas qu'ils auraient pas pu le faire, hein, mais ils auront moins de mal à le faire maintenant que Steam existe officiellement en Chine. Je pose ça là. C'est intéressant de le noter, on va dire.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Et si vous voulez plus d'infos d'ailleurs sur la Chine, je vous recommande de suivre Daniel Ahmad sur Twitter, JudgeEX, que je pense je peux appeler un ami, qui était dans l'émission Pixel très régulièrement et qui suit ce marché de très près, qui est un analyste plein d'insight sur le marché chinois. C'est hyper intéressant ce qu'il nous dit là-bas.
Ouais, c'est vraiment le mec à suivre, hein, pour la Chine.
Clairement. Alors, quelques petites news en vrac. Prince of Persia, le remake, a été décalé et il n'a pas de nouvelle date de sortie. Donc, ça a l'air de pas très bien aller pour le remake de Prince of Persia. Je ne sais pas si vous l'attendiez, mais a priori, ça ne va pas arriver tout de suite. Lego a annoncé une collaboration avec Sega pour un set Sonic. On va dire que ce n'est pas l'inventivité du set Mario, hein. Un petit peu comme dans tout ce qui se passe dans ce combat éternel entre Sonic et Mario, Sonic fait après ce que Mario a mieux fait avant.
Ouais.
J'attends
ouais,
les tomates.
C'est bien résumé. Non, mais c'est... je veux dire la même chose que tout à l'heure, mais c'est moche. Je pense qu'à un moment, il faut le dire quand c'est moche. Et c'est moche.
Et là, en plus,
ça fait pas rêver. Hein.
Je pense qu'il y a des gens qui vont bouillir en écoutant ces dernières minutes. Pardon, Winston.
Même les petits oiseaux sont cringe, quoi.
Non, mais ce qui est bien, c'est que ça ressemble vraiment au Sega de maintenant. C'est que c'est même pas eux qui ont décidé de faire quelque chose. C'est passé par Lego ID. Donc, c'est une sous-traitance par un mec qui a décidé de faire un set dans son coin, quoi. Donc, c'est le créneau s'assurer à tous les points. La figurine Sonic, elle est en vente depuis des années dans un pack pour le jeu NFC Lego Dimension. Elle était déjà moche de base, donc il n'y a rien à garder là, c'est bon. passe à autre chose.
Bon, la chatroom répond bien à notre troll. Aedean a même utilisé 100 processeurs, qui est la monnaie de Patrick sur Twitch, pour dire « hérétique ». Donc je suis bien obligé de le lire. Et Kassim nous a rappelé un passage douloureux de notre histoire avec le film Mario Bros, qui effectivement, j'ai pas vu le film Sonic, il faudrait peut-être que je le voie, il paraît qu'il est bien. Donc peut-être que là, ça serait un niveau de comparaison qui donnerait l'avantage à Sonic. En même temps, le film Mario Bros, je me demande s'il n'y a pas prescription. C'était quoi, les années 60 peut-être ? Quelque chose comme ça.
Bon, a priori, les visuels ne sont pas les visuels définitifs. On pourra vraiment juger le jour où on les aura, c'est vrai.
Très bien. Tu as raison de le préciser.
Compte sur moi pour dire que c'est moche si le définitif est moche.
Nintendo aurait redéposé en Australie Phantom Hourglass et Wind Waker. Donc, on peut imaginer un 35 ans de Zelda comme on a eu le 35 ans de Mario, avec des sorties paresseuses de classiques. Mais ça serait peut-être l'occasion pour moi de les faire le jour où, je ne sais pas, j'aurai du temps pour ça. Et on parlait de jeux qui sont vautrés au départ à la sortie. Il semblerait, d'après un autre ami de mon émission anglophone Pixels, Jason Schreier, le journaliste de tous les scoops, que c'est un autre géant de l'industrie, Electronic Arts, serait en train d'organiser cette semaine une réunion pour décider de l'avenir de Anthem, de voir si oui ou non ils allaient continuer le reboot ou carrément l'abandonner. Je me demande si je veux toujours que Anthem soit... Moi, je dirais oui, il faudrait qu'il relance, mais ça commence à faire longtemps, ça fait 2 ans qu'il est sorti. Et je me demande si on n'a pas un petit peu tourné la page, et mes espoirs que Anthem, qui avait certains éléments très cool, soit ramené à la vie, ne se sont pas un petit peu émoussés. Bon, il n'y a pas de fan.
Ça ne se sent pas bon. Hein. Oh non, ouais. Le simulateur d'Iron Man, non, c'est pas pour moi.
Ouais, pareil.
Mais simulateur d'Iron Man, tu as dit le terme qu'il fallait pour me redonner espoir. On dirait presque que je fais un podcast sur le MCU qui s'appelle Super Laser Punch, auquel vous pouvez vous abonner aujourd'hui pour avoir des débriefs hebdomadaires de tous les épisodes fous de WandaVision qu'on a depuis des semaines. Super Laser Punch dans votre app de podcast. Bon allez, Anthem, on espère. Quoi d'autre ? Forza Horizon 4 arrive sur Steam. Bon, Microsoft continue à s'étendre partout. Mais encore plus intéressant que ça, une suite à l'affaire Stadia de la semaine dernière. Alors, c'est un tout petit peu... c'est pas exactement une suite, mais ça parle de Stadia. Il y a eu une affaire un petit peu... Voilà, c'est ça que ça m'inspire, en fait. Andrew Spinks, le développeur de Terraria, a vu son compte Gmail et compte Google en général bloqué, et il a essayé de le faire débloquer en parlant à Google, en essayant, d'après lui, par tous les moyens normaux, pour essayer de contacter Google. Il n'a pas eu de réponse et il a dit « Ok, c'est bon, j'en ai marre, vous me faites chier, du coup Terraria n'arrivera pas sur Stadia, j'interromps le développement, allez vous faire foutre. » C'est quand même pas... C'est pas que... Stadia a tellement de jeux qui peuvent se permettre de se faire un ennemi d'un développeur, même si Terraria c'est cool, il y a des gens qui aiment beaucoup, c'est pas le plus gros jeu de la Terre, mais ça aurait été cool que Stadia ait ce jeu-là, quoi. Enfin bon, je sais pas, c'est un peu...
Je pense vraiment que les joueurs de Terraria attendent pas Stadia pour y jouer de toute façon, donc...
Non, mais peut-être que les joueurs de Stadia attendent Terraria pour jouer à Terraria, pour jouer à quelque chose.
Pour utiliser Stadia, tu veux dire.
Pour utiliser Stadia, oui.
Je devrais pas être aussi moqueur quand je parle de Stadia, parce que je viens de faire une vidéo pour parler justement de Stadia sur YouTube, sur youtube.com/notepatrick. Je parle de tout ce que je fais et il y a toujours des gens qui répondent à cette vidéo, même si dans la vidéo je parle des forces et des faiblesses et de pourquoi et de où je pense que va aller Stadia, il y a toujours des gens pour dire « Oh mais non, moi Stadia j'adore, pourquoi tu dis du mal ?» et des trolls qui viennent t'expliquer que Stadia est la meilleure chose de la Terre. Mais je sais qu'il y a aussi des gens qui utilisent vraiment Stadia. Donc je ne devrais pas me moquer, il y a des gens pour qui c'est une super solution. C'est vrai, et je ne dis pas le contraire. C'est juste que... On va dire qu'ils ne sont pas en suffisamment bonne position pour se permettre de perdre un jeu, ne serait-ce qu'un jeu qui, comme Terraria, qui n'est pas le jeu que toute la Terre entière connaît, mais qui est quand même un gros jeu, quoi. Bref.
Ouais, c'est sûr. Bah, ça leur fait un mauvais coup de pub, ça, de toute façon, c'est certain.
Ouais. Ouais, mais ça leur fait de la pub, pour une fois, ça va, on va pas s'entendre.
Ouais, ouais, si tu veux, ils essayent de challenger l'idée qu'il n'y a pas de mauvaise pub dans la vie.
C'est ça, ouais.
Cassie ouais, Boudic, c'est quand même 30 millions de ventes, Terraria. Hein. Je ne pensais pas que c'était autant. 30 millions, c'est quand même beaucoup.
Ah, mais sur ouais, combien c'est... de machines hein. Sur combien ah, de oui. plateformes aussi.
Bien sûr, bien sûr. Mais c'est quand même 30 millions. C'est impressionnant. Après, ça veut sans doute dire que tout le monde y a déjà joué. Bref. Et l'Epic Game Store devrait avoir un... ils ont des soldes qui arrivent aujourd'hui, ce soir, avec un stream qui va présenter des nouveautés ou des regards sur des jeux déjà présentés aujourd'hui. Donc, on va voir ça ce soir et on vous en rendra compte la semaine prochaine. Parlons un tout petit peu de Blizzard. Vous savez quoi ? Je ne sais même pas si c'est la peine. Il y a la BlizzCon dans 10 jours, la BlizzCon Online. Si le truc qui est quand même... deux choses qui sont intéressantes à noter du côté de Blizzard. D'abord, même si évidemment ils font des ventes incroyables chez Activision Blizzard et ils vendent beaucoup, beaucoup de choses, le truc qui est à noter du côté de chez Blizzard, c'est qu'ils ont le plus faible nombre d'abonnés actifs depuis des années et des années, c'est-à-dire qu'ils sont à 29 millions d'abonnés actifs mensuels pour le quatrième trimestre 2020 contre 46 millions au plus haut en 2017. Et donc, évidemment, c'est dû au fait qu'il n'y ait pas de nombreux jeux nouveaux qui sortent chez Blizzard. Mais c'est intéressant de noter qu'ils sont à 29 millions, alors que c'est le plus faible depuis des années. Et ils ont également annoncé très clairement, pour ne pas que les gens s'excitent, que Overwatch 2 ne sortirait pas cette année et Diablo 4 non plus. Alors, Diablo 4, on s'en doutait parce qu'il était à des étapes peu avancées de développement. Mais de nombreuses personnes, moi y compris, espéraient que Overwatch 2 sortirait cette année. Je continue à espérer une bêta. Peut-être.
Mais clairement, moi, j'étais comme toi, Patrick. Hein. J'étais persuadé que qu'il le sortirait cette année, quoi.
Oui. C'est quand même... il continue à... Enfin bon, bref. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Je suis très tiraillé chez Blizzard parce qu'on a, par exemple, appris que la présidente... Je crois que c'est la présidente de Vicarious Visions qui a été absorbée par Blizzard est devenue directement vice-présidente du développement, je crois, chez Blizzard. Et moi, ça m'inquiète, cette infusion de sang neuf qui n'est pas passée par la culture de l'entreprise. Mais en même temps, quand tu vois qu'ils vont encore, en 2021, pas avoir de grosses sorties, encore, qui continuent à perdre des joueurs et que Activision ne les force pas à sortir des trucs, je ne sais pas quoi penser, parce qu'ils semblent adhérer à l'idée fondatrice de Blizzard qui est « on ne sort pas tant que ce n'est pas prêt », même dans ces conditions compliquées, sur le papier, parce que si tu sors quelque chose, tu fais rentrer plein d'argent. Et c'est le leitmotiv d'Activision, généralement, on va dire, en tout cas l'image qu'ils ont. Donc, je ne sais pas.
Ah, mais il vaut mieux qu'ils prennent leur temps, parce que si c'est pour nous ressortir un WO4 qui ressemble à un WO3 du début, autant que ce soit when it's done et que ce soit bon, quoi.
On est complètement d'accord. Et je trouve que Overwatch 2 avait des ambitions qui étaient hyper imposantes pour le temps de développement qui semblait y avoir mis et que c'est vraiment une grosse initiative. Enfin, c'est une grosse entreprise que de se dire on va faire un côté PVE vraiment rejouable avec... C'est pas juste tu mets des cartes PVP reconverties en PVE. Il faut tout un système de progression. Moi, je suis sûr qu'ils vont à la BlizzCon, là, dans 10 jours, annoncer une refonte du système de progression pour motiver les joueurs à jouer. C'est pas facile de motiver les joueurs à jouer sur un jeu service en PVE. C'est pas comme le PVP. Et donc, le fait qu'ils respectent cette idée de on va attendre qu'il soit fait, oui, c'est le principe de Blizzard, mais tout le reste semble nous indiquer que Blizzard, poussé par Activision, abandonne ces principes-là, justement. Donc, et c'est vrai qu'ils font beaucoup d'argent. Ils font encore beaucoup d'argent, évidemment. Mais vous savez bien qu'Activision ne se contente pas de faire beaucoup d'argent quand ils pourraient faire encore plus d'argent. Imaginez s'ils sortaient Overwatch 2 cette année, peut-être même, je ne sais pas, des jeux mobiles qui auraient pu sortir depuis 2 ans, parce que les jeux mobiles, tu les fais vite. Ils auraient pu sortir faire plus vite Diablo 4 et le sortir en fin d'année. Enfin, il y a plein de jeux qu'ils auraient pu sortir, mal finis, mal foutus, et rentrer de l'argent. Mais
t'as l'impression qu'Overwatch 2 est vraiment aussi attendu que ça? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine lassitude autour d'Overwatch et que le deuxième opus n'est pas forcément ultra attendu, sauf pour les joueurs qui, comme toi et moi, continuent à y jouer de façon régulière, en fait.
Ah bah c'est sûr que l'aura du jeu s'est un petit peu émoussée, mais bah, on va reprendre...
Si on sortait un Hearthstone 2 demain, je suis sûr qu'il y aurait beaucoup plus de hype qu'autour d'Overwatch 2.
Bah tu sais... Ouais. On reprend. Moi, je suis pas convaincu, hein, mais je reprends la citation de Miyamoto qu'on reprend là encore à peu près tous les 2 épisodes. On se souvient d'un jeu qui est mauvais, pas d'un jeu qui est en retard. Et la hype de ouais. Overwatch peut tout à fait revenir si le 2 est à la hauteur. Ça va faire un paf s'il sort et qu'il n'est pas à la hauteur de ce qu'était le 1, qui a quand même été un très très gros morceau pour l'industrie. Et c'est pour ça que j'ai espoir quand je vois qu'ils prennent leur temps, quoi. Bref. Je sais pas si vous avez vu le MetaHumans de l'Unreal Engine. Vous avez vu ce que ça donne ?
Ouais, c'est magnifique, hein. C'est fou, hein, cette histoire de MetaHuman.
c'est l'outil à venir cette année de Unreal Engine pour créer des personnages humains. Facilement. Alors évidemment, l'Unreal Engine, c'est un outil de développement hein, qui permet de créer toutes sortes d'éléments de jeux vidéo. Et là, en plus du prochain Unreal Engine, le 5, qui exploitera toutes les capacités de nos dernières cartes. Et c'est surtout ça qu'il montre, en fait. C'est des visages qui sont photoréalistes, mais il montre ensuite la manière dont on peut les concevoir un peu comme un super créateur de personnages dans un jeu. Et donc, ça facilite le développement à ce niveau pour les développeurs, pour créer des NPC, des personnages très facilement. Enfin, c'est un outil de développement, quoi. Mais allez regarder la vidéo. Là encore, elle sera dans la newsletter. Ou alors, vous cherchez MetaHuman sur YouTube, tout simplement. Et c'est hyper impressionnant. Et ça donne des variétés de visages photoréalistes. Vraiment, je sais pas, ça te laisse la mâchoire sur le sol, quoi.
Ouais, c'est clairement impressionnant. Ça, et je me demande s'ils peuvent, enfin, j'imagine l'allier à une technologie, tu sais, un petit peu comme ces IA là qui permettent de faire des visages de personnes qui n'existent pas. Ça a un nom, mais.
Oui, c'est des visages en deep learning qui créent des visages de personnes qui n'existent pas. C'est un peu ça. Et il suffit, en fait, de mettre tous les paramètres en aléatoire et tu vas créer un visage voilà. Bon, avec des contraintes pour que ça ne soit pas quelque chose de complètement irréaliste. Mais,
et tu pourrais, du coup, avoir chaque PNJ unique dans un jeu avec des milliers de PNJ.
Complètement, une création procédurale et avec tous les PNJ. Bon, je suis sûr que ça existe déjà, c'est juste que là, c'est tellement plus impressionnant et réaliste.
Disons que pour les indés, comme c'était marqué dans le chat, c'est Last of Us 2 pour les indés. Ça va être bien, ouais. Ça, pour les petits budgets, tu vois, pour créer vraiment des modèles physiques vraiment très, très jolis et très rapidement. C'est surtout ça, quoi.
C'est clair. Quoi d'autre ? L'E3 est en train d'essayer de s'organiser à distance pour 2021 et il semblerait qu'ils aient retenu les leçons qu'on a tous compris de l'année dernière, qu'il ne faut pas que ça dure 4 mois. Ils vont faire ça en une semaine et ils sont en train d'essayer de rallier les développeurs et les constructeurs à leur cause parce qu'une fois que c'est en dématérialisé, bah, quel intérêt d'aller chez l'ESA pour l'E3 plutôt qu'ailleurs ? C'est une bonne question, mais Jeff Keighley d'ailleurs va recommencer son Summer of Gaming et cette fois-ci il va ramasser ça sur 1 mois et j'espère que ça sera un petit peu plus substantiel que l'année dernière, mais je suis curieux de voir ce que ça va donner pour l'E3. Moi je pense qu'il y a vraiment une opportunité, mais on verra s'ils réussissent à la saisir.
Ils vont pas demander de passeport vaccinal, sinon, enfin, je sais pas.
disons que pour la version en ligne, ça serait intéressant qu'ils demandent un passeport vaccinal.
Comme ça, on retourne tous là-bas.
Et puis, il y a un sujet qui est un petit peu compliqué à traiter pour moi, qui est celui de la plainte pour harcèlement sexuel envers Nicolas Laurent, alias Nicolo Laurent, qui est le PDG de Riot. Je dis que c'est compliqué à traiter pour moi parce que c'est un auditeur de l'émission qui, d'ailleurs, est un fidèle et qui a participé même à l'émission à une ou deux reprises. Donc, c'est quelqu'un que je considérerais comme un ami en ligne, on va dire, qui s'est vu accusé de harcèlement sexuel. Enfin, il y a une plainte qui a été déposée par son ancienne assistante. Alors, je vais vous dire de quoi il s'agit exactement. C'est son assistante qui, de 2017 à 2020, qui a dit que Nicolas lui a fait des... Enfin, s'est rendu coupable de harcèlement d'une part et lui a même fait des propositions déplacées en l'invitant à venir chez lui quand ma femme n'est pas... Ne t'inquiète pas, ma femme n'est pas là, etc. Enfin, ce genre de choses, c'est ce qu'elle prétend qu'il a dit, ce dont elle l'a accusé en tout cas, et qu'elle s'est retrouvée licenciée à l'été 2020 après que l'ambiance autour d'elle se soit dégradée et qu'elle se soit retrouvée harcelée donc par Nicolas. La réponse de Riot a été rapide. On imagine qu'ils ont été échaudés par les accusations de sexisme et d'ambiance toxique qui régnaient au sein de la société depuis des années et qu'ils ont essayé d'adresser en 2018 avec des enquêtes extérieures, des changements importants à l'intérieur de la boîte. Les retours qu'on a eus un an après ces changements semblaient aller dans le bon sens. Les retours faits par des enquêtes indépendantes de journalistes qui ont parlé à des employés de la boîte. Hein, ce n'est pas eux qui ont simplement dit « ça se passe mieux ». Mais évidemment, ce genre de choses est toujours un petit peu nébuleux et puis on ne peut jamais y voir exactement clair. Il n'y a que le temps et l'enquête des journalistes qui peut nous dire vraiment comment ça se passe. Et donc, suite à ça, la présidence de Riot, le board de Riot, a dit qu'ils avaient commissionné une enquête indépendante pour investiguer la chose, les accusations de harcèlement sexuel. Ce qu'ils ont dit directement, spécifiquement, c'est que le licenciement de l'assistante était non pas dû à ce qu'elle prétendait, mais à des plaintes nombreuses et documentées de différentes personnes au sein de la société. Alors, on n'a pas la nature des plaintes, on n'a pas les détails, c'est quelque chose de privé, mais ils ont adressé cet aspect. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? On ne sait pas. Là où je dis c'est difficile, pour moi, c'est que bon, comme je le disais, je connais un tout petit peu Nicolas, et on est dans une situation où on est un petit peu tiraillé, je crois, entre la nécessité absolue de croire les victimes, et qui est importante parce que, justement, elles sont souvent ostracisées et critiquées et harcelées quand elles expriment, quand elles parlent de ce genre de problèmes qui sont réels. Donc, c'est une vraie nécessité importante. Et bien sûr, de l'autre côté, la possibilité qu'on ne peut jamais complètement écarter, que ce qu'elle dit ne soit pas vrai et qu'elle le fasse pour essayer de tirer un bénéfice quelconque d'une telle accusation. Alors, il y a vraiment ce tiraillement, et j'insiste beaucoup sur ce point parce qu'il faut faire très attention quand on parle de la deuxième, du deuxième aspect, donc de l'idée qu'elle le ferait pour en tirer un bénéfice, parce que vraiment, dans les cas où c'est vrai, et il y en a beaucoup, et Dieu sait qu'on en a parlé dans différentes sociétés de jeux vidéo et pas que ces dernières années, il est vraiment important de croire les gens. Donc, on est tiraillé un petit peu entre les deux choses. Enfin, en tout cas, moi, je le suis. Donc, je crois que la meilleure chose à faire pour le moment, c'est de laisser le processus suivre son cours. Il y a une enquête indépendante par un organisme indépendant qui est organisé. Donc, j'espère qu'il donnera ses conclusions en toute indépendance. S'il y a une action en justice qui est faite, eh ben, on suivra ça aussi. Mais voilà, je voulais le mentionner et exprimer c'est même pas une question d'ambivalence, c'est que c'est difficile pour moi de juger la chose étant donné la nature de ma relation avec Nicolas. Et puis, j'ai l'impression, de manière objective, un petit peu la nature incertaine de la chose, parce qu'il n'y a pas d'accusation de quelque chose de physique, donc c'est difficile à prouver concrètement. C'est vraiment un cas où il y a des accusations qui sont difficilement vérifiables, ou en tout cas, on le verra avec l'enquête indépendante. Et voilà la situation dans laquelle dans laquelle je suis par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais...
Moi, j'aurais qu'une chose à dire. Écoutez, laissez la justice faire son travail. Dès qu'elle aura de plus amples informations, croyez bien que vous en serez les premiers informés.
C'est ça. Alors, je ne sais pas si la justice a été saisie directement. Je crois que l'accusation... Enfin, si, la plainte a été lancée pour harcèlement sexuel. Donc oui, c'est dans les mains de la justice. On va la laisser faire son travail, effectivement. Et quoi d'autre ? Allez, quelques petites news pour conclure. On va terminer rapidement. The Last of Us, il y a Pedro Pascal et Bella Ramsey qui joueront Joel et Ellie dans la série HBO. Si vous ne savez pas qui c'est, alors Pedro Pascal, je pense que vous en souvenez tous, c'est le Mandalorian, en plus de plusieurs personnages de la pop culture récemment. Mais surtout... j'ai déjà perdu son nom. Mais aidez-moi, Bella Ramsey, voilà, qui jouait Mormont. Vous savez, dans Game of Thrones, la toute jeune enfant qui était au conseil de je sais plus quoi dans le Nord et qui avait une attitude hyper dure et surprenante en leadant son armée et qui était hyper convaincante.
Ah ouais, elle était assez exceptionnelle. Par contre, elle incarnait une certaine maturité et vraiment une froideur. Je pense que c'était ça qui était apprécié dans son personnage. Alors que Ellie, je la trouve beaucoup plus humaine et elle a cette part de naïveté. Et je me demande comment elle va réussir à incarner ça. Du coup, ça va être intéressant à voir.
C'est sûr. Disons que là, en tout cas, elle jouait très bien ce personnage-là. C'est marrant parce que quand on voit les photos presse de l'actrice, on n'a pas du tout la même image. Que la dureté qu'elle avait dans Game of Thrones. Elle est au contraire une jeune fille tout à fait, qui a l'air heureuse, quoi, et normale, tu vois. Donc je me dis qu'il y a peut-être... ça a l'air d'être un choix qui sera peut-être le bon. J'ai un petit peu plus de mal avec Pedro Pascal, qui est tellement partout et qui fait tellement des personnages emblématiques que je me dis, est-ce qu'il va pouvoir... Peut-être qu'en se rasant la moustache, ça fera enfin quelque chose d'un petit peu différent pour jouer Joel. Mais il ne peut pas jouer encore avec sa moustache.
Il faut le mettre partout, Pedro Pascal. Même dans Grogu, il faut le mettre.
J'ai un petit peu plus d'hésitation, on va dire, avec Pedro Pascal, mais bon, on verra. Est-ce que vous avez vu ces TikTokers qui se déclarent leur amour pour la Saint-Valentin sur Minecraft ? Vous avez vu ça ou pas ?
Non, j'ai pas vu.
Il y a des gens qui postent sur TikTok des « Will you be my Valentine » que des gens ont fait sur Minecraft avec des montagnes russes, en fait, des îles entières qu'ils ont construites pour demander à leur copine ou leur copain d'être leur Valentin ou leur Valentine. C'est super mignon et je voulais le mentionner.
Trop cool.
C'est très très mignon, il y a des trucs impressionnants. Hein. Et enfin, si vous pensiez qu'on allait parler que de choses cool sur l'internet et dans le monde des jeux vidéo, on finit avec cette histoire de Happy Meal McDonald's avec des cartes Pokémon pour le 25e anniversaire de Pokémon. Est-ce que vous pouvez imaginer ce qui est en train de se passer ?
Alors, ils ont mis dans le Happy Meal une carte collector et en fait, les enfants n'ont jamais eu le temps d'en avoir parce qu'il y a des adultes qui ont pu acheter avant. Ça doit être un peu comme ça.
Exactement.
C'est vraiment
dégueulasse. N'importe quoi.
C'est ignoble. Les adultes sont en train de toutes les acheter. Ils vont dans les... D'abord, ils sont allés voler des caisses, filées par des employés de McDo, ou j'en sais rien. Mais enfin, ils ont récupéré des caisses, peut-être eux-mêmes les vendent. Et il y a des gens qui achètent des dizaines de Happy Meal pour choper toutes les cartes possibles.
Oui, mais forcément, quand tu vois que les cartes, il y a des cartes Pokémon qui se revendent des dizaines de milliers d'euros, les mecs, c'est un investissement pour eux, quoi.
C'est ça.
C'est un peu comme les scalpers de
PS5.
Ah là là. Non, c'est quand même triste. Bah, écoute, bientôt, il faudra montrer sa carte d'identité pour acheter un Happy Meal et justifier que tu as moins de 12 ans.
C'est ça, exactement. Je pense que ça serait un bon système. Bon, bah écoutez, ça va être tout sur cette petite partie de rigolade pour cet épisode du Rendez-vous Jeu. On va peut-être continuer avec un after show pour les Patriotes juste après ça, comme toujours, comme tous les épisodes. Mais avant ça, bien sûr, où est-ce qu'on peut vous retrouver tous les deux sur Internet ? Commençons par Winston. Où es-tu sur Internet ?
On me retrouve sur Twitter, Winston _Z. On me retrouve dans Backlog.
Oula, ça coupe !
Podcast.
Backlog le podcast. Tu as coupé un petit peu. On te retrouve dans Backlog le podcast.
Backlog le podcast. Et puis dans mon autre podcast qui est Pod Monstre Trésor, où on parle livre-jeu, le livre dont vous êtes le héros. Voilà.
Super, merci beaucoup. Escarina, où est-ce qu'on te retrouve ?
Alors, donc, comme je le dis à chaque fois, on me retrouve chez toi tous les deuxièmes jeudis du mois. Sur Twitter, donc @escarina_, sur mon site Kiss My Geek avec mon équipe, et puis donc dans cet autre podcast du jeu vidéo Super Gamerside. Et donc j'en profite pour te confirmer que les micros que les Patriotes nous ont offerts sont bien des NT-USB.
Très très bon choix, bravo.
Voilà.
Et pour ma part, c'est NotPatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous retrouvez tout ce que je fais sur notpatrick.com. Il n'y a pas encore le lien vers Super Laser Punch, mais il est disponible partout en cherchant. Si vous aimez le MCU et les débriefs des séries, de la série WandaVision, vous cherchez dans votre app de podcast et vous trouverez Super Laser Punch. Et sinon, tout le reste est sur notpatrick.com, la chaîne YouTube, les autres podcasts que je fais, etc. Et si vous voulez soutenir l'émission, c'est sur patreon.com/rdvjeu. Le lien est également dans les notes de l'émission et vous pouvez donc soutenir l'émission et devenir une personne de qualité, ce que vous êtes peut-être déjà, mais au moins comme ça vous serez sûr. Comme ça c'est réglé. Si vous soutenez le rendez-vous jeu, vous êtes une personne de qualité. Franchement, quel meilleur argument ? Moi je n'en vois pas. Donc patreon.com/rdvjeu. Je vous remercie tous de votre attention et je vous donne rendez-vous dans une petite semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous !